Alors, cette lettre est une lettre, donc la lettre 31.
Alors, la page.
La page.
Donc, la page. Cette lettre, lettre 31, l'Admour Hazaken va expliquer donc l'avant-dernière lettre de Igeret à Kodesh. Donc, j'ai essayé de choisir une lettre qui est courte, parce que comme la semaine prochaine, ça va être Rosh Hashanah, la semaine d'après, ça va être l'avant-veille de Yom Kippour, enfin, c'est où on fait les caparotes. Donc, ça veut dire qu'en vérité, là, maintenant, on a un cours. Et jusqu'à on a pratiquement
après, il y a
on a voilà après à Sukkot, donc on a pratiquement après 3 semaines d'interruption. Donc j'ai dit cette semaine je veux quand même avoir un cours, comme ça on démarre bien l'année.
Non, il y a 3 semaines d'interruption,
enfin, on peut pas comme ça faire sauter, c'est pas possible. Donc j'ai pris une lettre qui au moins on peut couvrir le sujet ce soir. Alors c'est une lettre dans laquelle Admour Hazaken parle beaucoup de la notion de hardout, de l'unité, et il explique le concept pourquoi. Quand deux personnes ne sont pas be'ardout, quand deux juifs, quand deux personnes dans le monde en général ne sont pas be'ardout, ne sont pas en unité, il va avoir une image, une très belle image, qui va dire que Kaviyachol Ashrina va tomber malade. En fait, pour expliquer pourquoi c'est très important d'être unis, il va faire une analogie par rapport au corps humain. Très intéressant cette lettre. Et il va expliquer que de la même manière que le corps humain peut tomber malade dans certains cas, et bien de la même manière, quand on n'a pas l'ardout, la Shrina tombe malade. Donc il va rentrer dans les détails. Donc il va expliquer comment techniquement, quand on n'est pas Be'ardout, c'est tout le Ham Israël qui souffre. Donc il insiste beaucoup dans cette lettre sur la Ardout, sur l'unité. D'accord. Alors, Noda Bashéarim. C'est connu, Mashekatu Betikunim. C'est connu ce qui est écrit dans les Tikunim. Quand on dit Tikunim, ça veut dire les Tikuné Zohar. C'est une partie du Zohar. Des Shrinta, Ii. Mar'a begaluta kaviyachol. Il y a une phrase qui revient très souvent dans le Zohar. Le Zohar nous dit que la Shrina est malade en galout. C'est un terme qui est assez nouveau. Ça veut dire quoi la Shrina est malade en galout? On sait que la Shrina est en exil, mais ça veut dire quoi que la Shrina est malade en galout? Pirouche, il explique. Noda Bashéarim, ça veut dire c'est connu dans les portes. Ça veut dire c'est quelque chose de très connu. C'est une expression pour dire c'est connu. Donc, tu l'as en français?
Oui.
Rachel, vous êtes équipé. Ah oui, on avait fait la lettre 26, on a fait 27, 28, ouais. Alors, donc c'est connu, c'est écrit dans Tikkuné Zohar, des Shrinta ii mar'a begaluta kaviyachol. On nous dit que kaviyachol, la Shrina est malade en galout. Quel rapport entre la maladie et la Shrina? Je veux dire, il n'y a pas de rapport. Pirouche, il explique. Al derech mashal, si on pourrait donner un exemple. Écoutez bien l'exemple. Kemo choli agouf amavdil ben kodesh verrouler, etc. Comme on dit, Mavdib, un Kodesh Lechol. C'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas en train de dire que la Shrina, c'est un corps, Chas v'Shalom. Mais si le Zohar emploie le terme malade sur la Shrina, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il veut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un homme lorsqu'il tombe malade, et qu'avec ça, tu comprennes qu'est-ce qu'a la Shrina. C'est pas par hasard qu'on donne des images. Quand on dit que la Shrina est malade, parce qu'on veut que la personne comprenne avec une analogie de son corps. Alors même, puisque on veut qu'on fasse une analogie avec le corps, on va parler de notre corps. Chez Sibat, à Choli va Beriout. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est malade, Dieu préserve, ou en bonne santé? C'est quoi l'élément le plus important? C'est la circulation du sang. L'élément le plus important pour la santé, c'est la circulation du sang. Quand un membre il tombe malade, automatiquement, le sang ne peut plus circuler comme il faut dans ce membre, automatiquement, c'est le corps entier qui tombe malade. D'accord? C'est-à-dire que l'élément numéro 1 la maladie, je veux dire, bon, à part bien sûr les maladies locales, par une maladie dans le cerveau, les choses comme ça, mais l'élément numéro 1 dans la maladie, c'est quoi? C'est quoi un signe de bonne santé? C'est quand le sang circule correctement. D'accord? Quand le sang circule correctement, et quand l'énergie du cœur, comme il va expliquer ici, arrive à être distribuée partout. Ça, c'est une preuve de bonne santé. Quand l'énergie du cœur n'arrive pas à être distribuée partout, par exemple, il n'arrive pas à bouger sa main, c'est-à-dire que l'énergie du cœur n'est pas arrivée jusqu'à la main. Quand l'énergie n'est pas distribuée, c'est qu'il y a un problème. C'est la même chose pour le cerveau. Quand le cerveau arrive à donner des ordres à tout le corps, c'est que tout va bien. Mais dès qu'il y a un membre du préserve qui ne répond plus, d'accord, une sorte de paralysie, c'est-à-dire qu'il y a un membre qui ne répond plus aux ordres du cerveau, ça veut dire qu'encore une fois, on a le même problème, c'est que les ordres du cerveau ne se sont pas répandus dans tout le corps. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait la bonne santé et qu'est-ce qui fait du préserve la maladie? C'est la circulation du sang, la circulation de l'énergie, le sang lui-même, et la circulation des ordres du cerveau. Donc, on parle de circulation. Dès que la circulation s'arrête, ou ne passe pas par un certain endroit, cet os, ça veut dire qu'il est tombé malade. On est d'accord? Ça, c'est le corps humain. Là, je vous apprends rien, jusqu'ici. D'accord. Puisqu'on a compris ça, on va comprendre maintenant le rapport qu'il y a avec la Shrina. On va dire ça dans les mots. Vous avez chez Sibat, troisième ligne,
du Spérek.
Chez Sibat, Acholi va Beriout. Qu'est-ce qui fait la cause de la maladie va Beriout? D'accord, Beriout en hébreu, ça veut dire quoi? La santé. On s'approche de Rosh Hashanah et Kippour. Beriout, on demande à Kadosh Baruch Hu la Beriout, c'est la santé. Qu'est-ce qui fait que Dieu préserve, on tombe malade ou qu'on est en bonne santé? Hi it pashtut ve ilouch achayut mehalev el kol aivarim. C'est le fait que la chayut, chayut ça veut dire l'énergie, la vitalité, va se répandre et va marcher entre guillemets, ça veut dire elle va circuler, mehalev, bonsoir, du cœur, el kol aivarim vers tous les membres. Amlou bechet bedam anefesh ayotse mehalev el kol aivarim. Selon la Kabbalah, on explique que cette énergie se trouve dans le sang. Parce que qui est Adam ou Anefesh. Et le fait que, quand le cœur il pompe le sang, et il renvoie le sang, ça veut dire que le cœur est en vérité en train d'injecter de l'énergie dans le sang. Le sang est le vecteur de l'énergie. On est d'accord? Le sang c'est un vecteur de l'énergie. De la même manière qu'un fil d'électricité c'est un vecteur, il fait passer du courant. Et de la même manière, selon la Kabbalah, j'ai aucune idée de ce qu'on dit en médecine. Hein. S'il y a des gens qui ont fait médecine ici, peut-être ils ont Dan, peut-être tu me diras. Hein, tu me... non. Selon la Kabbalah, on dit que le sang le cœur... fait communiquer l'énergie.
Que le cœur ne joue pas sur le sang. Il ne fait que le pomper.
Il le pompe, voilà. Bah, selon la Kabbalah, quand
là où il se transforme, le sang, c'est au niveau des poumons.
Selon la Kabbalah, quand le cœur il pompe le sang, il renvoie le sang, il met de l'énergie dans le sang.
Oui, de fait.
La chayout.
De fait, parce qu'il impulse.
L'énergie, oui. Parce qu'il
a, l'énergie qui fait vivre le corps. D'accord ?
Il y a de la pression, quoi.
Donc, cœur, c'est non, mais pas seulement ça. Il te dit que c'est une énergie tellement forte que finalement, c'est cette énergie qui fait vivre tous les membres. C'est ça la vitalité de tous les membres. Et c'est pour ça que dès que le cœur s'affaiblit, c'est tous les membres qui s'affaiblissent. Bon, c'est l'approche du Zohar. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce qu'on comprend, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose que même dans la médecine, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Que un signe de bonne santé, c'est une bonne circulation. Dès qu'il n'y a pas de bonne circulation, c'est un signe de mauvaise santé. Donc, ve sovev, sovev, olech, aruach chaim, ve adam, tor, tor, kol aivarim. Donc, sovev, sovev, en hébreu, ça veut dire quoi? Sovev, tsavive. Autour, exactement, tsavivon. Sovev, sovev, ça veut dire que maintenant le sang va faire le tour, ça veut dire qu'il va donc il va faire un roulement sans arrêt. Aruach Chaim ve Adam, l'énergie et le sang. Vous voyez, donc selon le Zohar, l'énergie et le sang, c'est deux éléments indélébiles. D'ailleurs, on dit que la Neshama se trouve dans le sang. D'accord ? La Neshama se trouve dans le sang. C'est pour ça que c'est très grave, selon la Torah, de consommer du sang. Parce que qui est Adam ou un Nefesh ? Le sang, c'est la vie. Nous, on dit que la Neshama se trouve dans le sang. D'accord, j'ai aucune idée de ce que dit la médecine sur ça. Non, c'est écrit que la Torah le dit, c'est même pas le Zohar, ça, qui est Adam ou Nefesh. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous savez, quand on va faire les caparotes, même quand on fait la shrita en général, on a l'obligation de recouvrir le sang. Quel sang? Quand on fait la shrita, il y a du sang qui va couler, du sang qui va s'éjecter. Ce sang-là, on considère que c'est le sang par lequel l'animal est mort. Ce sang, dans ce sang se trouve l'âme de l'animal. C'est pour ça qu'on couvre ce sang spécifiquement par respect pour l'âme de l'animal. Très spécifique. Hein, le reste du sang, il y a plein de sang encore dans l'animal. On va même le... D'accord ? Ça, c'est le sang. C'est le sang qui contenait l'âme. C'est le sang par lequel l'âme est partie. Très important, le sang dans la Torah. Donc, qu'est-ce que tu dis ici ? Finalement, c'est quoi une preuve de bonne santé ? C'est quand le sang, l'énergie, la chayout, arrive à faire le tour du corps. Aliédé à Gidim, à Mouvlaim, Bahem, en passant bien sûr par les Gidim, par les veines. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? En vérité, on a plusieurs choses. C'est une machine qui tourne avec beaucoup de choses. On a d'abord le cœur. Le cœur, c'est une machine, on va dire, à injecter de l'énergie. On a, à part ça, le sang. Le sang, c'est comme les fils électriques, Le sang, c'est le vecteur. C'est lui, concrètement, qui va faire passer l'énergie. Et on a aussi les conduits. C'est quoi les conduits par lesquels le sang va passer? C'est les veines. Si il manque ne serait-ce qu'un seul de ces éléments, s'il y a un seul de ces éléments du préserve qui manque à l'appel, d'accord, il n'y a pas de circulation. Donc s'il n'y a pas de circulation du préserve, selon l'importance du membre, si c'est un membre qui n'est pas vital, si c'est un organe qui n'est pas vital, comme la main par exemple, ben, c'est la main qui arrêtera de fonctionner du préserve. D'accord. Donc il nous faut toujours trois choses. Il nous faut le cœur, celui qui pompe, d'accord. Il nous faut le sang, c'est celui qui fait passer l'énergie. Et il nous faut le conduit. Le conduit, c'est la veine. On est d'accord? Ça, c'est dans le corps. Dans le corps, c'est comme ça. Vechoser et l'élève. D'accord. Et après, ça tourne, ça fait le tour, ça part du cœur, ça revient vers le cœur. C'est pas par hasard si le Zohar nous dit que, on l'a dit tout à l'heure, la Shrina est malade. On emploie le terme malade. Parce que apparemment le Zohar veut qu'on comprenne cette notion de maladie par rapport à la Shrina, de comprendre que quelque part, comme on va expliquer tout de suite, on est un petit peu les membres de la Shrina. Alors on va expliquer, est-ce qu'on est les veines, est-ce qu'on est le cœur, est-ce qu'on est le sang ? On va expliquer. Ve'im sibou vehilur aruach chaim alaz. Si le sibou, on a dit sibou, ça veut dire quoi ? C'est vivonne, sibou. Si le circuit, et donc la circulation de cette énergie, ou keil chato, il est keil chato, ça veut dire
normal,
fonctionnel, comme il se doit. Tmidi kesidro. Tmidi, ça veut dire qu'il est... Quand on dit fonctionnel, ça veut dire aussi qu'il est récurrent. Ça veut dire
régulier.
Que... régulier. D'accord, ça veut dire c'est pas qu'il fonctionne une fois par jour. C'est que il doit fonctionner de manière constante, permanente. Très important ce qu'on est en train de dire ici. Ça veut dire que si maintenant le cœur va se dire, écoute, laisse-moi, j'ai envie d'aller en vacances pendant une heure.
C'est pas bon.
C'est pas bon. De la même manière, comme on va expliquer après, si un juif il va dire, écoute, laisse-moi faire du lachon ara juste une heure. Après,
j'arrête.
J'arrête.
Il faut le laisser.
D'accord. Une heure, je tombe, une minute. Ça va. Ce qu'il va expliquer, il dit, c'est pas par hasard si le Zohar te prend l'exemple du cœur, parce que c'est quasiment la même chose. Dans le cœur, t'as pas le droit à l'erreur. Et ne serait-ce qu'une minute, c'est fini. Ça y est. Alors ça, après, ça dépend si c'est dans un organe vital ou pas. Ça dépend qui est en train de se battre. Mais avec ça, on comprend. Donc, Tmidi Kesidro Amesudarlo. Mais chayé à chayim baruchou, si le sang va tourner correctement, si le sang va tourner de manière, tu as la page, va tourner de manière régulière, tamid, d'accord, kessidro, comme le seder, comme l'ordre que Dieu a instauré, azay adam bari betachlit. Là, on pourra dire que l'homme est bari. Bari en hébreu, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, on a dit briout, c'est la santé, donc bari, ça veut dire en bonne santé. Betachlit, parfaite santé. Ar, cependant, Im yesh eze kilkul bezo mekoman. S'il y a un kilkul, kilkul en hébreu ça veut dire quoi? D'accord? Kilkul, c'est pas une restriction. Kilkul ça veut dire abîmé. Comme en hébreu on dit mekulkal, même en hébreu moderne. On dit par exemple quand il y en a même qui dit quand tu veux dire ma voiture est tombée en panne, il y en a qui emploie le terme mekulkal. Mekulkal ça veut dire abîmé, cassé, mekulkal. Donc s'il y a eze kilkul, un empêchement, ça veut dire donc une certaine cassure, donc une maladie, bezo mekoman, peu importe l'endroit. C'est-à-dire, ça peut être une veine qui a explosé, je sais pas moi, en bas du corps, à côté du pied. Mais quel rapport maintenant? Non, il y a bien sûr qu'il y a un rapport. Ben, Isaou, mais comment? Peu importe l'endroit où se trouve le problème de la circulation du sang, à Monéa ou Meakev, si maintenant ce problème de circulation va empêcher le sang de passer, ou bien, moins grave, ou bien, même à Et Sibou Veilou Khadam, il va ne serait-ce que freiner la vitesse de circulation du sang, et donc le sang qui, rappelez-vous, qui contient Imaruachaim Ameloubashvo, le sang qui contient l'énergie, Azai, Nifsak, Omitmaet, Akesher Alaz, Amekasher, Kol Aevarim Alalev, Alaide Sibou Valaz. Donc du coup, alors ça dépend, le corps humain est très complexe, d'accord? C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a bloqué un membre que tous les membres sont bloqués. Mais tous les membres qui dépendent de ce canal, tous les membres qui dépendent de cette veine, vont être bloqués. Là, c'est leur circulaire. Alors après, ça dépend. Ça dépend si Dieu préserve, c'est très grave. C'est quand un membre, quand une veine est complètement bouchée, ça c'est très 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 grave. En général, c'est pas ça ce qui se passe. En général, ce qui va se passer, c'est que la veine, elle va se rétrécir. Ça arrive, Dieu préserve. D'accord? Ça arrive plus souvent. La veine se rétrécit, donc il y a des problèmes de circulation. Et donc du coup, ben on va sentir une grande lourdeur, on va se sentir très très mal. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsqu'il arrive ça, Ve'azai, à ce moment-là, Nofel à Adam le Mishka Vecholi Hashem Ishperenu. De ça, du préserve, on tombe, les mishkav, ça veut dire d'abord on s'allonge, et bon, vecholi, cholé en hébreu, ça veut dire malade, tombe à la maladie. Tout ça, ça démarrait de quoi? Ça démarrait d'une petite veine, d'une micro-veine en bas de mon pied qui m'a cassé les pieds et qui s'est bouché. Et on te dit, bah oui, bah même si c'est une petite veine et que, je veux dire, c'est un truc, je dis, mais quel rapport, mais laisse-moi tranquille. Eh ben non, ça a un impact sur tout le corps, et c'est tout le corps qui va tomber malade. Et tu peux pas venir dire, non mais c'était rien du tout, c'était insignifiant. Non, tout le monde va souffrir à cause de cette petite veine. Cette petite voie de pied, tout le monde va souffrir à cause de lui. Bon, après on sait, comme j'ai dit, que le corps humain est complexe, que c'est pas forcément que quand il y a un qui est bloqué, qu'il bloque tout le monde. Mais en tout cas, il bloque tous ceux qui dépendent de lui, tous ceux qui passent par lui. C'est le corps humain. Bon, prends, on parle de ça maintenant, on n'est pas dans un cours...
Le remède.
On n'est pas dans un cours d'anatomie, d'accord? Le rapport est très simple.
Le remède, c'est une maladie.
D'accord? Non, notre but, c'est pas parler du remède, c'est de nous faire prendre conscience de l'importance de l'unité.
Diagnostiquer.
C'est ça le problème, tu comprends? Tu dis, qu'est-ce qui va se passer si moi je suis accroché avec une personne pendant quelques jours? En quoi le Ham Israël va souffrir de ça? Tu peux m'expliquer? Il n'y a rien, c'est rien. Logiquement, c'est vrai, c'est rien du tout. On finira certainement par se remettre. Voilà, c'est bientôt Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il y a? On est tranquille.
En attendant.
D'accord, pourquoi tu me dis, c'est très très grave? Je dis non. C'est pas que toi qui vas en souffrir, c'est pas que l'autre qui va en souffrir. C'est tout le Ham Israël qui tombe malade. Pourquoi? Alors il explique. Il dit, car à mama, il en est exactement de même, al derech machal. Si on pourrait donner un machal, iné, kol neshamot Israël, toutes les âmes d'Israël, nikraim, prinat et varé de shrinta. Tous les membres, tous les neshamot Israël sont appelés les membres de la shrina. On avait fait un cours une fois sur ça. On avait expliqué que de la même manière que dans un corps, il y a différents membres. Il y a des membres plus importants, des membres moins importants. Tous les membres sont importants, mais il y a des membres qui sont plus vitaux que d'autres. On avait expliqué que de la même manière, dans le Ham Israël, on a les tzadikim, on a des rabbanim, d'accord, on a des enseignants, on a de tout. Et dans chaque endroit, on a de tout, on a plusieurs membres. Et on dit qu'on considère que les gdolim, les grands de la génération, eux, ils sont à la tête. C'est pour ça que quand un tzadik ne va pas bien, c'est tout le corps qui ne va pas bien. D'accord ? Quand il n'y a pas la paix entre les tzadikim, ça se fait shalom, non, c'est tout le corps qui ne va pas bien. Mais ce qu'il veut expliquer ici, c'est quoi ? C'est que même si ce n'est pas un membre qui est aussi vital que la tête, même si c'est un autre membre, comme le doigt de pied, même un doigt de pied, ça peut faire mal. On sait très bien quand quelqu'un a déjà eu mal au doigt de pied. Un homme qui a sauté ou un truc comme ça, ça fait très mal. Tu t'allonges, tu ne peux rien faire. C'est un doigt de pied que tu... C'est-à-dire, si tu n'avais pas fait mal, même pas tu l'aurais remarqué. À part que tu coupes les ongles, c'est tout. Tu l'as même pas remarqué, c'est même pas à quoi il sert. C'est le petit doigt de pied. À quoi il sert le petit doigt de pied? Mais à quoi il me sert?
Avoir mal de temps en temps.
Quoi il sert?
C'est clair, on aurait pu avoir
des... Ah, mais c'est vrai.
Une seule patte.
Tu dis à quoi il sert ce petit doigt de pied là? C'est-à-dire, tu sais même pas à quoi il sert. Et pourtant, ce petit doigt de pied, d'accord, il a sa fonction et quand il a décidé de te faire mal, c'est le corps entier qui est mal, tu t'allonges et tu te tords le corps. Et c'est comme ça. Ça veut dire qu'aucune personne du Ham Israël, même si tu te prends pour le doigt de pied, ça c'est un mot de Mourazaken, ça il dit, même si un juif il dit, moi je suis rien, moi je suis dans l'Ham Israël, moi je suis le doigt de pied, moi. Personne ne me remarque. Il dit, ah. Même si tu es le doigt de pied lorsqu'il fait mal, c'est le corps entier qui a mal, jusqu'à la tête. Et c'est la tête qui aura le plus mal, parce que qui c'est qui ressent la douleur en premier? C'est la tête. La tête ressent la douleur. D'accord? Donc, il n'y a pas de personne qui peut dire je ne fais pas partie du corps, ça n'existe pas.
Les cheveux.
Les
cheveux, ça ressemble à moi.
Non, les cheveux, c'est pas la même chose. Ah. Les cheveux, tu sais pourquoi ça fait pas mal quand on coupe les cheveux? Pourquoi ça fait pas mal quand on coupe les cheveux?
C'est en dehors de...
Parce que les cheveux, c'est en dehors. Quand on dit que dans les cheveux, il y a une partie infime de chayout, d'énergie. Mais il y a un tout petit peu quand même. C'est pour ça que quand on tire les cheveux, ça fait mal. Mais quand on le coupe, ça fait pas mal. Parce qu'il y a une partie très très fine d'énergie qui se trouve dans les cheveux.
C'est au niveau, c'est la connexion avec le cuir chevelu.
C'est
la connexion avec le cuir chevelu qui fait mal quand tu arraches un
mal. Ouais. C'est le fait
donc
qu'on arrache.
C'est là où tu as la connexion.
Ouais.
Là où tu as le contact.
Mais le cheveu en soi.
Le cheveu en lui-même, non.
Donc on peut être un cheveu. Un cheveu, toi tu le perçois comme être un cheveu dans la soupe.
Donc, je reprends. Mais ceci dit, bon, les cheveux, c'est quand même. Les ongles aussi. Les ongles, c'est la même chose.
Oui, bien sûr.
D'accord. Donc, il dit comme ça. On reprend notre machal. Le kacha mamash al derech machal. Iné, kol neshamot Israël. Vous avez dans les mots? Où on est arrivé dans les mots? Ça, vous avez une image magnifique qu'il veut dire ici. En plus, j'ai choisi ça par. C'est pas par hasard, hein, je choisis ça avant Rosh Hashanah. Pour ça, on se travaille sur ça. Le kacha mamash al derech machal. Il en est de même. Iné. Kol neshamot Israël, nikraim, prinat et varé des shrinta. Toutes les neshamot Israël sont appelées les membres de la shrina. Alors, rappelez-vous, on a plusieurs choses. On avait le cœur, on avait le sang et on avait les veines. D'accord ? Donc, qui est le cœur déjà ? Le cœur, c'est la shrina. C'est la shrina qui donne l'énergie. C'est la shrina qui nous donne la force aux neshamot. Ça, c'est le cœur. Le cœur, comme le cœur. Donc, un ikret. Beshem lève, la shrina est comparée au cœur, que Moshe Katouv, comme c'est écrit dans Tehilim 73, Vetsur Levavi. Akadosh Baruch Hu, quand il nous parle comment il est notre Dieu, quand David Ameler il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu es le rocher de mon cœur. Quel rapport avec le cœur? Comment chez Kato, comme c'est écrit, Veshachanti Betocham. Dieu, il dit, je résiderai parmi eux. Parmi eux, ça veut dire quoi? Parmi Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est le cœur. C'est elle qui nous donne l'énergie, c'est elle qui fait qu'on vive, c'est elle qui fait qu'on a notre Neshama. Pirouche, il explique qu'il a Shon Shrina, le mot Shrina, ou She'or Avaye Shochen Be'olamot Bria Yetzira Asiya La Chayotam Ve'am Shachat Chayut Zo I Al Yede Itlapshu Trila Be'Neshamot Yisrael. Il explique, il dit pourquoi la Shrina est comparée au cœur. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, ça on l'avait étudié dans le chapitre 41, donc on va le rappeler brièvement. Akadosh Baruch Hu, il va éclairer le monde Bria Yetzira Asiya, ça on l'a expliqué longuement. Ve'am Shachat Chayutzo I Al Yede Itlapshu Trila V'Neshamot Yisrael. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. On dit comme ça, on dit que lorsque Kadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a demandé conseil. Et qui l'a demandé conseil?
Les Malachim.
D'accord? Avant les Malachim, avant même de créer les Malachim.
À qui il a demandé
conseil? Oui, à qui il avait demandé conseil? La raison n'a rien, il n'y a personne. Beminimlach, d'accord? Benishmotem shel Tzadikim. Avant même que le monde soit créé, il y avait les Neshamot des Tzadikim. Et les Tzadikim, c'est nous. Parce que Ve'amer Kulam Tzadikim. Potentiellement, on est tous des Tzadikim. Akadosh Baruch Hu, potentiellement, bien sûr. Akadosh Baruch Hu nous a demandé conseil à nous. Est-ce qu'il va créer le monde ou pas? Et qu'est-ce qu'il dit ici? Il te dit que l'énergie du monde entier passe par Israël. Elle passe par les Neshamot d'Israël. Israël, c'est le cœur de l'humanité. Alors, de la même manière, le cœur, c'est un membre parmi tout. Le cœur, c'est un membre parmi le corps. D'accord? Et c'est peut-être même un membre qu'on ne verra même pas. C'est quand la dernière fois qu'on a vu son cœur? On ne voit pas son cœur. Quand on doit voir son cœur, du présent, c'est qu'il y a des problèmes. Il vaut mieux pas qu'on le voit son cœur. D'accord? Ouais. Sauf.
Si tu appelles ta femme, mon cœur.
Ah. Azek. D'accord? Donc, son cœur, on ne le voit pas. Et pourtant, on sait que c'est le cœur qui fait tout. D'accord? Donc il dit, de la même manière, il dit, qu'est-ce qui fait? C'est quoi le cœur du monde? C'est quoi le cœur du monde? C'est la Shrina. Et la Shrina, elle est régie par quoi? Elle est régie par Israël. C'est-à-dire que le monde entier écrit, qu'est-ce qui est le moteur du monde? Le moteur du monde, c'est Israël. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, on dit, c'est écrit à propos de Matan Torah, du don de la Torah, hein, qu'il y a eu une sorte de tremblement de terre au moment où Dieu a donné la Torah. Pourquoi? Parce que tous les astres, tout le monde, toutes les montagnes, comme ça il dit le Midrash, tout le monde s'est tourné vers Israël. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Israël, il a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? On aurait pu répondre oui, comme on aurait pu répondre non. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a prévenu, il a dit, si vous répondez non, Ani marzir ataolam le tohu vavohu, je ramènerai le monde au stade de tohu vavohu, puisque si le cœur ne marche plus, il n'y a rien qui marche. Et le Midrash raconte qu'à ce moment-là, tu as toute l'humanité, toute la nature, qui était impatient d'entendre la réponse d'Israël. Et selon cette réponse, ils allaient savoir est-ce qu'eux-mêmes, ils allaient continuer à vivre ou pas. C'est un petit peu comme le corps, tous les membres du corps, qui attendent de voir est-ce que le cœur va reprendre ou il ne va pas reprendre. Quand il y a du préserve une crise, ils attendent est-ce que le cœur va reprendre ou pas. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas le cœur, il n'y a rien.
Il y a la relance américaine. D'accord. Ou pas pour l'économie.
Qu'est-ce qu'il y a? L'américain, c'est le cœur du monde.
L'économie, en tous les cas, ils attendent tous la relance des États-Unis.
T'es au courant, David, ce qui se passe en ce moment dans le monde?
Ah, dans le monde, non. Et dans le 13e?
Dans le 13e non plus. Le monde est en train de se noyer.
Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez moi, le reste.
Non, mais bon, si l'Amérique repart pas, tu pourras pas trop pitch.
Si je compte sur l'Amérique, tu vas pouvoir avoir quelque chose.
Nous, on connaît l'Amérique pour laisser le rabissou. Alors, je continue. Donc, je suis en train d'expliquer que le Israël, c'est le cœur du monde. V'yevchar le kabel chayut me'oro v'shiv'o yitbarech liyot nivraï ma'in liyesh v'chayim v'kayamim ki'im al-yede an-neshamot she'alou b'marchava v'kadmou livriat olamot she'nivreou al-yede prilat adibour. Là, en fait, on a un petit condensé, un petit rappel de plusieurs cours qu'on avait fait. D'abord, on avait un cours dans lequel on avait expliqué ce que je suis en train de vous dire, que le monde entier a été créé pour Israël, et que si Israël refusait, si tout le Ham Israël en même temps refusait d'étudier la Torah, Dieu préserve, tout le monde entier, imaginez-vous que tous les juifs du monde entier se rassemblent et qu'ils décident, on arrête d'étudier la Torah, qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Dieu ramènerait le monde au stade de Tohu Bohu. Mais ça n'arrivera jamais, je vous rassure, Dieu a fait un serment que ça n'arrivera jamais. Ça arrangera toujours pour qu'il y en ait qui n'est pas au courant du plan ou un truc comme ça. Mais si ça arriverait, techniquement, théoriquement, ça arriverait, le monde arrêterait d'exister. On avait expliqué aussi une fois, ça s'en avait expliqué dans les Guérettes à Teshuvah, certainement vous vous rappelez, c'était l'année dernière. On avait expliqué que le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Et Israël a été créé par quoi? Par le souffle. On a dit par là, Israël vivrait où? Marshava, par la pensée, par le souffle. Ça veut dire ce qu'il y a de plus profond chez Akadosh Baruch Hu. Kemamar Razal, comme les Chachamim ont dit, mais minimlach Akadosh Baruch Hu, d'accord? Donc à qui Akadosh Baruch Hu a demandé conseil? Ce que je viens de vous expliquer, il a demandé conseil au Neshamot des. Au Neshamot des. Tzadikim. D'accord? Ça veut dire qu'il a demandé conseil au Neshamot d'Israël. Kalodem et Makomacher. Ça veut dire quoi? Pourquoi il nous raconte tout ça ici? C'est pas pour nous embrouiller avec des trucs de Kabbalah. C'est pour nous expliquer que qu'est-ce qui fait tenir le monde? C'est la Shrina. C'est ça l'énergie du monde. Maintenant, cette énergie, elle doit être déployée dans le corps. Quand elle doit être déployée dans le corps, il y a des membres qui sont il y a des parties qui sont moins vitales que d'autres. Par exemple, si une personne, il va se faire une blessure dans sa peau. Une blessure pas très profonde. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que c'est pas vital et que ça va pas altérer la bonne santé du corps. Donc la même chose. Il y a certaines bêtises qui peuvent être faites dans le monde, mais qui ne sont pas vitales pour le monde. Ça veut dire que c'est pas la fin du monde. Il faudra les réparer, mais c'est pas la fin du monde. Mais il y a des organes vitaux pour le corps. Les veines, c'est vital pour le corps. Israël sont comparés aux veines du monde. Israël, c'est les veines du monde. C'est intérieur, c'est pas extérieur. D'accord, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous entendez quelqu'un qui vous dit « Oui, les Juifs, ils gèrent le monde », il a raison. C'est vrai, vous lui dites « Tu as raison ». Peut-être pas extérieurement, mais intérieurement, c'est les veines du monde. Dans le sens que, s'il y a un problème, si les Juifs font mal leur boulot, intérieurement, ça se casse, et là, c'est la catastrophe. Parce que c'est pas la même chose que l'extérieur. « Veno da bashari » C'est connu. Aussi, autre chose. Qui colle amshachat achayut veashpa'a, mais elyonim le tartonim mehem. Que toute l'énergie qui va passer, mais elyonim le tartonim mehem, la notion de transmission de l'énergie, de ce qui est de plus haut à ce qui est de plus bas, en kemo shekatuv besefer yetira. C'est comme ce qui est écrit dans Sefer Yetira, t'es avec nous? Alors.
Mushkin, il a l'air épuisé, il a pris
sur lui. Tu t'es mis une du boulot?
Ouais, il est.
La reprise.
Du quoi, du coup?
Du boulot?
Non,
du boulot, ça fait longtemps. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit on a oublié les vacances, ça fait longtemps les vacances. Hein? Heureusement qu'elle est faite, exactement. Donc, en kmoshe katouv, besefer yetira, naout trilatan besofan, besofan betrilatan. Sefer yetira, je vous avais parlé une fois du sefer yetira, je crois. Sefer Yetira, c'est un livre qu'on dit qui a été composé par Adam Harishon. C'est le livre le plus ancien de l'histoire. Alors, c'est pas compliqué, c'est un livre dans lequel il y a seulement 240 mots.
C'est un SMS.
Voilà, c'est un SMS. Non, un SMS, c'est 160 caractères. Voilà, donc c'est un. C'est rien, quoi. 240 mots. C'est rien du tout, 240 mots. Combien de mots il y a dans une page? Je ne sais pas combien il y a dans une page. Alors, on doit pas être très loin, hein, c'est une page. Hein? Bon, 240 mots, c'est rien. D'accord? Alors, dans ce Sefer Yetira, il y a 240 mots. Tout est crypté là-bas. Par exemple, une des choses qu'on avait étudiées une fois, c'est la notion, on avait dit là-bas dans ce Sefer Yetira, c'est écrit deux pierres construisent. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, on avait dit, c'était le système des combinaisons. Deux pierres construisent deux maisons, trois pierres construisent en puissance. 3 puissance 3, ça fait combien?
6 maisons, 9 maisons.
C'est factoriel.
Factoriel, hein?
6.
C'est 6, d'accord. Ensuite, 4 pierres construisent 25, c'est 4 ça?
3, 3, non, 3, 4 fois 3 fois 2 fois 1.
Non, voilà.
1 fois 2 fois 3 fois 4.
24.
Voilà, 24, d'accord, etc. Après 120, quelque chose comme ça. Ok. Alors, ça, c'est Sefer Yetira. Ça, c'est une ligne de Sefer Yetira. À quoi elle correspond cette ligne? Bon, c'est venu pour nous apprendre les maths. On avait expliqué une fois. En fait, là, dans ce Sefer Yetira, ce qu'il va nous expliquer, c'est la notion des tirufim, des combinaisons. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec sa parole, mais dans la parole d'Akadosh Baruch Hu, dans la première paracha qu'on va bientôt lire dans le Chumash Bereshit, la première paracha, chaque mot de la paracha Bereshit, il faut l'apprendre, et on peut faire des compositions, et avec chaque mot, d'accord, par exemple, si tu as 5 lettres, ben avec 5 lettres, tu peux avoir 120 combinaisons possibles, etc. Alors plus après, tu augmentes, après 6 lettres, 7 lettres, etc., c'est un infini. Ça, c'est une ligne de Sefer Yetira. Ça veut dire que c'est simplement pour te dire que sache que nous, on est capable de le faire. Adam Arishon, il était capable de voir dans la Parasha Bereshit, de voir toutes les possibilités, toutes les combinaisons que tu pouvais retrouver avec chaque mot. Ça, c'est une ligne de Sefer Yetzirah. Dans Sefer Yetzirah, il y a une autre ligne qu'on n'a jamais étudiée encore, qui te dit comme ça, qui te dit « Na'ut trilatan vesofan, vesofan bitrilatan ». Alors, je suis curieux de savoir comment il traduit ça ici. « Na'ut », moi, j'aurais traduit ça par « accrocher ». Comment il traduit ça chez vous, David ?
La vérité. L'influence des mondes supérieurs en direction de ceux qui leur sont inférieurs provient d'elle.
Non, juste après, c'est à la fin du paragraphe.
Le début est lié à la fin et la fin au début.
Voilà, ah, vas-y. Oui ? Le début est lié.
Le début est lié à la fin.
Ah, il traduit ça par lié. Et sais toi comment il traduit ?
The beginning is.
Is, ouais.
Lumière directe, lumière.
Beginning is what, ouais.
Is the most
point. Lumière directe et lumière réfléchie.
Non, d'accord. Non. Ah oui, d'accord. Ok. Open-most sur le plus bas. Ah, d'accord. C'est-à-dire comme ça. Ça, c'est aussi une ligne de Sefer Yetzirah. C'est même pas une ligne, c'est quatre mots. Enfin, quatre mots. Combien c'est ? Naout, Trilatam, Sefer. Cinq mots. Naout, Trilatam, Sefer, Sefer, Trilatam. C'est le mot du Sefer Yetzirah. Traduction. Le début est lié à la fin et la fin est liée au début. Ça veut dire quoi ? Vous allez me dire c'est comme un cercle. Non, c'est pas comme un cercle. Je répète, le début est lié à la fin est liée au début. Ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Le début c'est le début, la fin c'est la fin. Ou t'es au début ou t'es à la fin. D'accord ? Tu dis pas. Alors, le début de quoi et la fin de quoi d'abord ? Quand je parle du début, je parle de ce qui est le plus près d'Akadosh Baruch Hu. Quand je parle de la fin, je parle de ce qui est en bas. Donc normalement, qu'est-ce que nous on a envie de dire ? On a envie de dire ou tu es en haut ou tu es en bas. Quand tu es en haut, tu es en haut. Quand tu es en bas, tu es en bas. Il vient te répondre, Sefer Yetzirah, et tu dis c'est une erreur. Il te dit, tu veux savoir où se trouve le plus le haut ? Il se trouve en bas. Et tu veux savoir quel est l'endroit le plus bas ? C'est en haut. Comment c'est possible ? C'est quoi cette histoire ?
Mais l'inverse, c'est vrai aussi. D'accord ? Que...
Non. Pas du tout. Ah bah non, c'est ça le piège. Tu dis, le début est lié à la fin et la fin est liée au début. Ça veut dire que quand tu es en bas, tu es en haut et quand tu es en haut, tu es en bas. C'est quoi cette histoire ? Il y a un exemple qu'on donne dans Chassidut pour expliquer ça. On dit, regardez. Imagine-toi, tu as un mur ici. Tu as un mur avec des briques. Un mur, des pierres, des briques. Ce mur va s'effondrer. Il va s'effondrer, il va se casser. D'accord ? Il y a des pierres qui vont tomber ici, il y a des pierres qui vont tomber ici. La pierre qui va arriver là, elle était où avant de tomber ? Elle était en haut. Mais pourtant, elle arrivait le plus loin. Elle était le plus haut, et elle arrivait le plus loin. Et la pierre qui était en bas, tout en bas, elle restait juste en bas. Qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple ? On voit que quand il y a une cassure, quand il y a quelque chose qui se casse, ce qui a été le plus haut va descendre le plus bas.
C'est ça, tomber de haut.
D'accord ? C'est ça, tomber de haut, exactement. Ce qui était... C'est l'humour aujourd'hui, Dana, il est... Non, après, c'est bien.
C'est pas que l'humour, hein, c'est aussi la réalité.
La alors. Donc, ce qui était tout en haut va arriver le plus loin possible. Pourtant, c'était le plus haut, c'était le plus beau, le plus haut. Il va arriver le plus loin possible. Et bien, on explique la même chose, c'est basé dans Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, Sefer Yetzirah te dit, c'est la même chose. Les choses que tu crois être le plus bas dans ce monde, ici-bas, c'est en vérité les choses dans lesquelles il y a le plus de Kdusha. C'est pour ça, hein, on explique en Chassidut, c'est pour ça que on voit que, par exemple, Yaakov, il a dû voler les brachot à qui ? À Esav. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle faisait les brachot chez Esav ? Pourquoi c'était là-bas ? C'est un rachat, Esav.
Il était où ?
Parce que Esav, étant donné que ici-bas, il était très très bas, il a fait le pire avéro possible inimaginable. Le fait qu'il est très très bas, ça montre qu'en vérité, il a une capacité extraordinaire. Donc c'est lui qui détient la clé du succès.
Oui, n'empêche qu'il est resté en bas.
D'accord ? Qui ?
Mais ça.
Oui, mais il fallait lui dérober les brachot.
Mais il avait les bras.
D'accord ? C'est la raison pour laquelle aussi, en Chassidut on explique, c'est la raison pour laquelle aussi, Yehuda et Tamar, qui vont avoir une relation qui est... Bon, on va essayer, les mefarchim vont essayer de la justifier un petit peu. Vous connaissez l'histoire d'Yehuda et Tamar ? D'accord ? Yehuda et Tamar. Yehuda, il avait deux enfants. Er et Onan. Er et Onan étaient a priori des Rechaïm, ils sont mal comportés. Et ils sont décédés jeunes, en laissant une femme. Une femme qui s'appelait Tamar.
Qui est la belle-fille.
D'accord ? Qui est la belle-fille de Yehuda. Il y avait un troisième, Yehuda avait un troisième enfant qui s'appelait Shéla. Shéla. C'est un garçon, pas une fille. Alors, donc il avait un troisième garçon qui s'appelait Shéla. Mais il était petit. Comme les deux premiers, c'était la femme de Onan, je crois. Comme Onan est mort sans laisser d'enfant, il y a une loi qui dit que elle va se marier avec
le jeune.
Avec le jeune. Pour prolonger la dynastie du frère. Elle était d'accord, Yehuda était d'accord, a priori tout le monde était d'accord. Mais c'était un enfant, donc il fallait attendre qu'il grandisse et qu'il accepte. S'il n'accepte pas, on commence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. On a attendu que Sheila a grandi, et malheureusement, Tamar, elle voit que personne vient la voir. On l'a oublié. Et on ne peut pas oublier des choses comme ça. Ça ne s'oublie pas. Donc elle a compris qu'il y a un problème. Alors, elle s'est déguisée en prostituée, et elle s'est mise dans la rue, donc elle a essayé de cerner la route par laquelle passait Yehuda. Yehuda est passé, il l'a prise, très bizarre. Il va avoir des relations avec elle. Alors elle va lui dire, il va même parler de tarifs. De tarifs, tu vas payer pour ça. Alors Yehuda va lui dire, j'ai rien sur moi. Et il va lui ressortir, il va lui dire, ben, alors elle lui dit, moi je veux un gage, il va lui donner un gage, le bâton. Qu'est-ce qui va se passer? Son bâton. Qu'est-ce qui va se passer? Et son bâton et son seau. La suite de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'après, Tamar, elle va être enceinte. Donc on apprend que Tamar est enceinte, ça fait un scandale. Tout le monde dit, mais attends, comment Tamar peut être enceinte? C'est impossible. Elle n'est pas mariée. Donc il y a un problème. On lance à Yehuda, parce que dans la tête des gens, elle est en attente de Sheila. Mais dans la tête des gens, si elle est enceinte, c'est qu'il y a un problème, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Donc, on annonce à Yehuda, Yehuda dit, c'est un scandale, comment c'est possible, etc. Donc Yehuda, il appelle, Yehuda il dit, Otsiwa vetisaref. Il a dit, il faut la brûler. Mais juste avant qu'on la brûle, Tamar a dit, voilà, juste une chose à vous dire. Elle va voir Yehuda discrètement. Yehuda repunit après. Et elle va dire à Yehuda, je suis enceinte de la personne à qui appartiennent ce bâton et ce seau. Et donc là, Yehuda a dit, Tzatka Mimeni, Yehuda a dit, elle a raison. Il aurait pu passer ça sous silence, personne n'aurait su parce qu'elle a fait ça discrètement. C'est-à-dire que et Tamar a fait un effort, et Yehuda a fait un effort. Tamar a fait un effort de ne pas crier sous les toits, elle aurait pu crier, ça aurait été plutôt en fait un scandale. Et Yehuda a fait un effort d'avouer publiquement ses fautes. D'accord? Et on dit que de cette relation qui va naître, il y a un enfant qui s'appelle Peretz. Peretz, c'est de lui que va naître Mashiach. Bon, ça, je suppose que la majorité de vous, je ne vous ai pas pris cette histoire. Ouais. Alors, l'Admor Hazaken, tu l'as connu déjà?
Non.
Alors, Paracha.
Le roi David, il descend de ça.
Tout le monde descend de ça. Alors, Mashiach descend de ça. Yehuda descend de ça, et puis donc Mashiach descend de ça. Alors, l'Admor Hazaken, il pose une question là-bas dans le Torah Or, sur le commandant Torah Or, sur cette Paracha. Il dit, mais c'est bizarre quand même. Il dit, attends, on parle pas de n'importe quoi, on parle pas d'un roi, on parle de Mashiach. Mashiach descend de ça? Franchement. Alors, bien sûr, les méfarchis, là-bas, ils expliquent. Hein. Il y en a qui expliquent, en vérité, avant d'avoir des relations avec elle, lui a donné une bague pour les kiddushis. Enfin bon, après, on peut toujours se débrouiller. Mais c'est pas clair, c'est gris, quoi, c'est pas normal. Vous voyez, vous, un gadol, prendre une femme dans la rue, l'amener chez lui à la maison, il y a un problème. C'est ton paron, c'est pas normal. D'accord? Imaginez-vous un rabbi faire ça. C'est pas possible, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas normal. En plus, il me dit que de ça va descendre Mashiach. Et l'Admor Hazaken, il dit comme ça. Il dit en vérité parce que la Neshama de Mashiach était prise en captivité par les forces du mal. Et la seule manière de prendre en captivité par les forces du mal, il faut être un sadique pour être capable de faire ça, c'est de passer par la ruse. Et de Kaviachot, de lui faire croire que tu vas jouer son jeu, et à la dernière minute, tu l'arraches. Mais il faut rentrer dans le champ de l'ennemi. Kaviachot, Yehuda, comme ça explique le Mourazaken, c'est pas moi qui le dis. Yehuda, Kaviachot, et rentrer dans le champ de l'ennemi pour lui faire croire Zarma, j'ai craqué, etc. et tout. Et pas qu'à la dernière minute, il a pris le contrôle de la situation, et là, après, de ça va naître la Neshama de Mashiach. C'est-à-dire que c'est pas par hasard ce qu'on raconte. Pourquoi je dis ça? Je reviens à notre sujet. Rappelez-vous la ligne de Sefer Yetzirah qui nous dit Naout Trilatan Besofan, Besofan, puis Trilatan. La fin est liée au début, et le début est lié à la fin. Ça veut dire que les choses les plus fortes vont tomber le plus bas possible. Les Neshamot les plus grandes vont avoir les plus grandes tentations. Et d'un autre côté, ceux qui te paraissent très hauts, c'est qu'en vérité, ils sont déjà très proches, mais en vérité, ils n'ont pas une neshama si grande que ça. C'est-à-dire que plus on descend bas, et plus ça prouve qu'on a une grande neshama. C'est la raison pour laquelle on dit que les grands tzadikim aiment les grands rechaim. Vous savez ça, vous la connaissez celle-là ou pas? On dit que le Baal Shem Tov, il aimait les grands rechaim.
Il y a une arnaque, d'accord.
Il y a une arnaque, un problème là. Attends, Rosh Hashanah, oh.
Pourquoi? Il savait que ça avait une potentiel.
Exactement. C'est pas qu'il les aimait. C'est qu'ils étaient conscients qu'ils avaient un potentiel extraordinaire qu'eux-mêmes n'avaient pas.
Donc, ils trouvaient intéressant.
Et que s'ils sont tombés tellement bas, c'est qu'il y a un truc. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui tombe très très bas, c'est qu'il a une très très grande neshama. Une neshama extraordinaire. D'accord ? Ça, c'est 5 mots de Sefer Yetzirah. 5 mots, c'est tout. Et avec ça, on a... je l'ai fait short, là.
D'accord ? C'est l'intelligence aussi.
On
va rassurer des gens.
On va faire une annonce.
L'intelligence, c'est très simple. C'est que Naout Trilatan, Besafam, Besafam, Trilatan, c'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, ce qui est le plus bas vient du plus haut, ce qui est du plus haut descend du plus bas. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, ce qu'il veut t'expliquer ici, on veut. Tout ça, il est en train de monter les éléments du puzzle pour nous expliquer l'importance cruciale que chacun va avoir dans le Ham Israël. D'abord, il t'explique, il te dit, sache que chaque personne du Ham Israël est comparée à une veine. Et une veine, peu importe l'endroit où elle se trouve dans le corps, quand on la bouche, ou quand on bloque, ou quand on freine la circulation par cette veine, c'est le corps entier qui va tomber malade. Donc aucune personne du Ham Israël ne peut se permettre de dire, laisse-moi faire de la vérote maintenant, ça va, c'est pas grave. Il dit non, c'est pas seulement toi qui va tomber malade, c'est le corps entier qui va tomber malade. Mais il va pousser encore plus loin que ça. Il va dire, toi, qu'est-ce que tu es en train de prétendre ? Tu prétends être une petite neshama tout en bas ? Eh ben, mon vieux, t'as mal fait de le dire. Parce que si tu dis que t'es une petite neshama en bas, ça veut dire qu'en vérité, t'es tout en haut. Vous voyez le... Et c'est pour ça, encore une fois, puisqu'on a parlé du Baal Shem Tov, la semaine dernière, c'était le jour d'anniversaire du Baal Shem Tov, on dit que le Baal Shem Tov aimait beaucoup les juifs simples. Qui apparemment n'avaient aucune connaissance, ne savaient même pas lire la prière. Pourquoi ils les aimaient ? Parce qu'ils disaient, c'est eux qui ont les plus grandes neshamot. Comment les plus grandes neshamot ? Ils ne savent même pas lire. On a la réponse. Les choses les plus hautes descendent le plus bas. Le Baal Shem Tov aimait beaucoup les juifs simples. D'accord ? Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire, aucun juif peut venir dire, je suis insignifiant dans l'âme Israël. D'abord parce que même le petit doigt de pied, il peut te casser les pieds. Numéro 1. Et numéro 2, au contraire, si t'es en bas, ça veut dire que tu viens de très très haut. Et ça veut dire que t'as un potentiel extraordinaire. On dit que le Baal Shem Tov, il dit toujours qu'un Tehilim, un juif simple, il va droit direct chez Kadosh Baruch Hu. Quand nous on étudie la Torah, est-ce qu'on est sûr qu'on a compris ce qu'on a étudié ? On essaye. Est-ce qu'on est sûr qu'on a compris ? Est-ce qu'on est sûr qu'on a bien compris ? Est-ce qu'on est sûr qu'on a tout compris ? Mais quand un juif simple, il fait un Tehilim qui sort du cœur, il est sûr à 100% que ça passe. D'accord ? Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que personne n'est insignifiant dans le rouage du Ham Israël. Celui qui dit ça, il n'a rien compris. Au contraire, j'adore ce vice-là. Le gars, il dit, mais je suis tout en haut, moi. Il dit, ah, tout en bas, t'es tout en haut. Youssef, qu'est-ce qu'ils en pensent, le Malachim, de tout ça ? Est-ce que les rêves étaient beaux ? Hein ? Petit café ? Ah, je fais les sirop dans le matin. Ah ouais. T'es excusé, ça va. 6 heures ?
Ouais.
T'es debout à quelle heure ?
4h30.
Qui se lève à 5h10 du matin ?
Joseph.
Ah, comment ?
C'est là que demain je peux me réveiller. C'est là que demain je peux me réveiller avant.
Tu vas nous représenter.
On le fait vous déjà.
Alors, non, on le fait un peu plus tard. Nous. Donc, Ubekid ve'Arizal, Mechune, Beshem, Or Yachar, Ve'Or Choser. Dans les écrits du Arizal, cette notion qu'on a expliqué que le début se trouve à la fin et que la fin se trouve au début, cette notion dans les écrits du Arizal s'appelle la lumière droite et la lumière réfléchie. Ça revient souvent dans les mots du Arizal. Pour dire quoi ? Pour dire qu'en vérité, ça veut dire quoi la lumière réfléchie ? On dit que la lumière réfléchie est plus forte que la lumière directe. Pourquoi ? Parce que la lumière réfléchie, c'est...
Il reprend une impulsion ?
Exactement. Ça veut dire comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il envoie de la lumière, il envoie une très forte lumière. D'accord ? Celui qui est tout en bas, finalement, c'est lui qui va réfléchir la lumière. Réfléchir, c'est ce qui va renvoyer la lumière. En vérité, c'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui devient lui-même un spot. On le voit, ça, d'ailleurs. Regardez. Si je prends un spot et je le dirige sur du fer, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? L'élément le plus éloigné depuis ma torche, qui est ce morceau de fer, il va réfléchir la lumière, il va devenir lui-même un spot. Pourtant, c'est lui qui est le plus éloigné possible du spot. Vous me suivez ?
Oui.
Et il va réfléchir la lumière encore plus fort, dans certains cas, ça sera même encore plus fort que ce que le spot était. D'accord ? On voit, par exemple, que quand tu as un rayon de soleil, qui va être réfléchi d'une certaine manière par du verre, le rayon peut être encore plus fort que ce qu'il était à la base s'il n'était pas réfléchi. D'accord ?
Il peut être amplifié.
Il peut être amplifié. On peut amplifier une lumière. On est d'accord ou pas ?
Avec une loupe.
Avec une loupe, par exemple, voilà. C'est par exemple avec une loupe, on peut faire brûler du papier de toilette qu'on faisait quand on était enfant. C'est ça qu'on faisait ça. Chez nous à l'école, on faisait ça. Papier de toilette ou des allumettes.
On faisait le journal dessus.
Voilà. Le journal ? Ah non, le papier de toilette, ça brûle très très bien. Hein, on faisait pas ça à l'école ? Hein ? Donc, voilà ce qui t'explique ici. Tu dis ici, ce qui est le plus bas va finalement devenir lui-même un spot, va devenir le plus haut. Donc, moi, chez Katsub, comme c'est écrit, Ve'achayot Ratso Vashov. C'est écrit également, Ve'achayot Ratso Vashov, ça c'est dans la vision d'Ézéchiel. On nous parle des Chayot, donc de l'énergie qui va aller-retour. Maintenant, on comprend ce que c'est aller-retour. Que finalement, le retour est encore plus fort que l'aller. Le retour, ça veut dire comme ça. Akadosh Baruch Hu, il va descendre. Et à un moment, la Neshama qui va être le plus bas possible, celle qui va être le plus bas possible du monde, celle qui va permettre à cette lumière de se réfléchir et de repartir en haut. Seulement le problème, c'est que si cette Neshama ne le fait pas, la lumière reste bloquée en bas. Mais elle a un potentiel extraordinaire. Elle a un potentiel de devenir une lumière encore plus forte que ce que c'était à la base. Asher Alket, tout ça pour dire quoi ? On voulait pas parler d'anatomie, rappelez-vous. On voulait expliquer ce que veut dire le Zohar lorsqu'il nous dit que la Shrina est Mar'a, la Shrina est malade. Mar'a en araméen, ça veut dire malade. D'accord ? Donc, Asher Alken, une fois qu'on a compris ça. Alpi Advarim via Emet Aele. Selon ces choses-là et selon cette vérité. Alors, vous savez, quand on dit dans la Torah, bien sûr que c'est la vérité. Pourquoi qu'il a dit que c'est un mensonge ? Pourquoi il dit cette vérité ? Chaque fois qu'on ramène des choses de Kabbalah, la Kabbalah est appelée la Torah de vérité. Toute la Torah est la Torah de vérité. La Kabbalah est appelée la Torah de vérité parce que la Kabbalah c'est pas conçu comme la Gemara. Dans la Gemara, il y a des questions, il y a des réponses. Des fois, on va avancer un argument qu'on va casser. Ça veut dire que ça se construit, d'accord ? C'est sujet à discussion. Mais dans la Kabbalah, quand on étudie le Zohar, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de marloquette. C'est des faits. Et c'est pour ça que la Kabbalah, on l'appelle Chochmat HaEmet. La chorma de la vérité. Donc la Morazaka te dit, Achar advari behemet ele, après ces paroles et cette vérité. D'accord, c'est quoi ce truc-là? Voilà. Après ces paroles et cette vérité, Asher Iefchar Levaer Etev Vemirtav. La Morazaka nous dit néanmoins que ce qu'il vient d'expliquer, on ne peut pas Levaer Etev, Levaer, Biur. En hébreu, ça veut dire c'est quoi un Biur? Levaer. Une explication. Et on ne peut pas bien expliquer ça, Bemirtav. Mirtav, à l'écrit. Donc, la Morazak Kennedy, ce que je suis en train de vous expliquer, on ne peut pas l'expliquer parfaitement à l'écrit. Ah, David, il dit ça, si j'ai pas tout compris.
C'est parce qu'il n'a rien écrit.
T'es avec nous ou pas, David ? C'est compliqué aujourd'hui ou pas ?
Non, très bien.
D'accord. Donc, attendez. Il y a une petite surprise pour la suite. Attendez, une petite surprise. Alors, donc, il y a une petite surprise, c'est pas par hasard qu'on a choisi cette lettre. Donc, Asher Yafshar Levaer Etev Mirtav, Nikret Ashrina Beshem Lev Vaneshamot Beshem Evarim. Voilà pourquoi l'Ashrina est appelée le cœur et les Neshamot sont appelés les membres. Pourquoi ? Rappelez-vous les deux leçons qu'on a expliquées. Les membres font circuler l'énergie. De la même manière, les Neshamot Israël font circuler l'énergie du monde. Et pas seulement circuler, elles vont carrément réfléchir cette lumière. Et plus une Neshama va être tout en bas, et plus en vérité c'est une preuve que c'est cette Neshama qui va permettre à cette lumière d'être réfléchie et d'être encore plus forte. Donc moi, chez Katou, comme c'est écrit, Venaoutz. Non, j'ai sauté quelque chose. Lehorot. Lehorot, Lehorot, l'anou. Pour nous enseigner. Kacher. Ki kacher, kol la Neshamot, vukot, mkusharot yachad. Si toutes les Neshamot seront liées et attachées ensemble, si on aura une vraie Avat Israël, et si on arrivera à comprendre qu'on est complémentaires, et que peut-être qu'un c'est le pied, l'autre c'est la tête, l'autre c'est le cœur, tu sais quoi, pense que t'es la tête, y a pas de problème, mais pense que toi t'es la tête et l'autre c'est le doigt de pied, ça te plaît ? Ça change pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même un doigt de pied, quand la tête ne communique pas avec le doigt de pied, il fait très très mal le doigt de pied. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une communication parfaite. Dvukot, umkusharot, yachad. Ils doivent être attachés et liés. Quand les Neshamot sont liés et qu'on communique ensemble et qu'on a conscience qu'on est complémentaires les uns avec les autres, sans être d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord. On n'est pas en train de dire que tout le monde doit penser la même chose. On doit avoir conscience qu'on est complémentaires. Azai, à ce moment-là, Sibouv, Vehilur, Achayut, Vashpa, Sevev, Sevev. Alors, l'énergie de la Shrina, l'énergie d'Akadosh Baruch Hu, arrive à faire le tour. D'accord ? Elle arrive à faire le tour, et automatiquement, on peut parler d'un Am Israël qui est en bonne santé. Si on nous dit que le Beth Amikdash était détruit à cause de quoi ? À cause de la
haine gratuite.
Pourquoi il n'y avait pas de traverotte ? Vous savez que le premier Beth Amikdash était détruit à cause d'autre chose. Le premier Beth Amikdash était détruit à cause de la Avodah Zarah, à cause qu'on ne faisait pas la Shpita. Le premier Beth Amikdash, on a réparé le problème relativement rapidement. 70 ans. 70 ans plus tard, on a construit le deuxième Beth Amikdash. Mais le deuxième Beth Amikdash était détruit à cause de quoi ? La haine gratuite. La Gemara Avodah Zarah témoigne, elle dit qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, tout le monde, la majorité du peuple d'Israël était religieux. Très religieux.
Trop religieux.
D'accord ? Non, très religieux. Jamais trop. Très religieux. Et pourtant, quelle était la seule avéra qu'ils ont faite ? C'était la haine gratuite. On va dire, mais attends, par rapport au premier Beth Amikdash, ils ont fait les 400 coups. Ceux-là, ils étaient religieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a la haine gratuite, alors ils vont se travailler. Non. C'est ce qu'on a expliqué ici. Avec ce que Morazakin t'explique ici, il te dit non, pas du tout. Il te dit, quand il y a la haine gratuite, quand les Neshamot ne communiquent pas les unes avec les autres, qu'est-ce qui se passe ? Et bien automatiquement, le corps tombe, la Shrina tombe malade. Le corps tombe malade. Et quand le corps tombe malade, on ne peut pas avoir le Beth Amikdash. On est malade. Voilà, avec ça, on comprend qu'est-ce que le Zohar voulait dire lorsqu'il disait que la Shrina, quand elle est en galoute, la Shrina est malade. C'est-à-dire qu'on peut être très religieux, on peut avoir tout ce que tu veux, mais si on ne communique pas les uns avec les autres, si on n'a pas conscience qu'on est complémentaires les uns avec les autres, sans forcément être d'accord, mais qu'on est complémentaires les uns avec les autres, si on n'a pas conscience de ça, on perd notre temps, la Shrina est en galoute, l'énergie ne véhicule pas dans le corps. Donc le corps entier est malade. Pas que ces deux personnes-là, le corps entier tombe malade. Venaout, Sofan, Bitrilatan, le Kacher ou le Chaber Kulan, la Vaye Echad ou le Kaboy Barer. La fin dépend du début, le début dépend de la fin, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que tu peux pas dire, mais lui c'est un rachat, chez rachat, laisse tomber, il est tout en bas lui. Tu dis, mais non. Il y a aucun élément ne peut être dissocié du corps du Am Israël. L'élément le plus loin possible, non seulement qu'il n'est pas loin d'abord, il fait partie du corps, ici il est malade, c'est le corps indiqué dans le malade, mais au contraire, plus il est bas, on va dire, plus c'est une preuve qu'en vérité il est haut.
Et ça, il avait pas compris.
Moi, chez Katou, comme c'est écrit, regardez la petite surprise, la petite. Un petit clin d'œil pour notre paracha. Atem nitsavim ayom kulechem. La classe ou pas ? Alors.
C'est bien trouvé.
Hein ? Fallait le faire, hein, celle-là. Alors.
Il y a du boulot derrière.
Moi, chez Katou, comme c'est écrit. Non, ça, la vérité, j'avais pas prévu. Hein ? Quand j'ai choisi la lettre, j'ai choisi pour Avat Israël, j'ai pas prévu.
Là. Pas debout,
hein ? Tu crois que tu l'as pas
prévu ? Voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui a prévu. Donc, moi, chez Katouf, comme c'est écrit, Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifne Hashem Elokechem. Qu'est-ce qu'on dit dans la paracha Nitzavim ?
Vous trouvez debout ?
Moi, chez Rabbeinu, il convoque tout l'âme Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifne Hashem Elokechem. Vous êtes tous debout, vous êtes tous présents devant Akadosh Baruch Hu. Baal Shem Tov explique, il dit que quand on dit la paracha Nitzavim est toujours lue, c'est toujours le Shabbat qui est lu avant Rosh Hashanah. Et la paracha Nitzavim, c'est quoi Hayom ?
On n'avait pas fini par les clavettes.
D'accord, oui. C'est quoi Nitzavim ? C'est quoi Hayom ? C'est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une allusion à Rosh Hashanah, le Yom Adin. Yom Adin Araba, le jour du grand jugement. C'est le jour, le Yom Adin. Et le pasouk te dit comme ça. Il te dit, Atem Nitzavim Hayom, vous voulez être tous présents, debout devant Akadosh Baruch Hu ? Debout ! Nitzavim, c'est pas présent, c'est debout. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est présent et quelqu'un qui est debout ? Quelqu'un qui est debout, c'est quelqu'un qui est sûr de soi. D'accord ? Quelqu'un qui est sûr de soi, quelqu'un qui est sûr de son coup. Il est debout, ni de sa vie, ça veut dire je tiens droit. Il est sûr de son coup, il est sûr que ça va marcher. Alors, dit le Baal Shem Tov, il dit, Atem, Nitzavim, Hayom, vous voulez être debout devant Dieu ? Vous voulez être debout, vous voulez vous tenir bien, vous voulez être sûr de gagner ? C'est quoi le secret de la réussite ? Le secret pour être debout, pour être sûr qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu ? Lifne Hashem Elokechem, vous voulez être devant Dieu ? Il faut être Kulechem. Kulechem, vous devez être tous ensemble. Vous voulez être devant Dieu ? Devant Dieu, vous voulez que Dieu soit à côté de vous ? Vous voulez être Nitzavim, vous voulez être debout, comme il dit là-bas le Baal Shem Tov, ça veut dire vous voulez être sûr que vous allez gagner au jugement ? comme un avocat qui est sûr de son coup. Vous savez, l'avocat, quand il est là, qu'il doit plaider, et que bon, le cas est très difficile, il va pas se tenir droit. Il va se baisser pour essayer d'invoquer la clémence du juge. Mais quand l'avocat ou quand même la personne qui plaide est sûre de son coup, il se tient droit. Il n'a peur de personne. Je vais gagner, moi, je suis sûr de mon coup. Il se tient droit. Baal Shem Tov dit, si on veut se tenir droit devant Akadosh Baruch Hu, ça veut dire se tenir devant le Satan, le regarder droit dans les yeux et lui dire, cette année, je vais gagner.
Amen.
D'accord ? Comment tu peux faire ça ? Te dit le Baal Shem Tov, la seule manière de le faire, Atem Nitzavim Hayom, vous voulez être debout, vous voulez être devant Dieu, Kulechem. Il faut être tous ensemble.
C'est là où tu veux.
D'accord ? Exactement. Atem Nitzavim Hayom, point d'interrogation, vous voulez être tous debout, enfin c'est un dracha, Kulechem. Tous ensemble. Et là, l'Ifna Hashem et le Krem. Là, vous serez devant Hashem. Ça veut dire quoi ? Kulechem Daika. Velifne Daika. Alors là, le Morazaken, il va pousser encore plus loin le bouchon. Il va dire l'Ifne en hébreu, ça veut dire devant. Mais l'Ifne en hébreu, ça veut dire aussi avant. Là, il va pousser encore plus fort. Atem, Nitzavim, Ayom, Kulechem. Vous êtes tous debout, ça veut dire vous êtes tous présents devant Akadosh Baruch Hu. Vous êtes sûr de gagner. Kulechem, parce que vous êtes tous ensemble. Lifne Hashem Elokechem, devant Dieu. Quoi devant Dieu ? D'accord ? Devant, ça veut dire aussi avant Dieu. Ça veut dire quoi avant Dieu ? Personne n'est avant Dieu. Avant le nom de Hashem Elokim. On va aller directement à la source des Neshamot qui est encore plus forte que le Shem Adonai et que le Shem Elokim. Lifne Hashem Elokechem. Et ça grâce à quoi ? Grâce au fait qu'on est Kulechem, qu'on est tous ensemble. C'est fort. Je reprends ? D'accord ? Ça veut dire que si on est Kulechem, si on est tous ensemble, si on est le klal, on est conscient qu'on se complète les uns les autres, alors là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, on est Nitzavim, on se tient devant Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas honte d'être ce qu'on est. On sait qu'on va gagner. Mais pas seulement ça. Lifne Hashem Elokechem, on va dépasser toutes les limites du Shem Avayi, du Shem Adonai, du Shem Elokim, on va tout dépasser. On va aller encore plus fort que tout ça. On va aller directement à la source de Neshamot. Alors, Rachechem, quand on dit tout le monde, ça va couvrir, ça vous verrez dans la paracha, le premier psukim de la paracha cette semaine. On va couvrir Rachechem, les chefs de tribu, les Neshamot les plus grandes. Mechotev et Tzera. On va couvrir également des Neshamot qui, a priori, sont des Neshamot qui se... On va dire, c'est même des personas non grata, comme ils disent. Vous savez, c'est quoi ces Chotev et Tzera ? On l'avait expliqué une fois. C'est des gens, Shabbat aussi, on en parlait. C'est des gens qui se sont convertis par la ruse. En vérité, ils ne voulaient pas se convertir. Il y en a qui disent que c'était des espions. Ils se sont convertis. Mais en vérité, ils ne voulaient pas se convertir. Ils se sont convertis pour intégrer l'homme Israël, pour espionner, avant d'entrer en Israël. Et nous, on a dit, une fois qu'on a accepté, on touche plus à ça. Donc on les a mis porteurs d'eau. D'accord ? C'est là le métier qu'on leur a donné. C'est ce que Rachid explique. Mais ça veut dire quoi ? Ils sont juifs, 100%.
Non, ils sont...
On les a acceptés, c'est fini.
Porteurs de bois ou porteurs ?
D'accord. Mais ça veut dire quoi ? Porteurs de bois, et puis ça vient. On les a acceptés, maintenant c'est fini. Maintenant c'est des Neshamot qui sont inclus partout. Et bien qu'est-ce qu'il te dit dans la parasha Nitzavim ? Il te dit, Moshe Rabbeinu dit, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Vous êtes tous là. Rachechem, Shiftechem, les chefs de tribu. D'accord ? Tout le monde. Mechotev et Tzerat Shoebemecha. Depuis les chefs de tribu, jusqu'à ces gens-là que a priori on voulait même pas d'eux. Tout le monde est là. Et parce que tout le monde est là, c'est pour ça qu'Hachem est là. S'il manquait ne serait-ce qu'une seule personne, même de ces gens-là que... S'il manquait ne serait-ce qu'une seule personne, d'accord ? Même ces gens-là, c'est des gens qu'on voulait pas, c'est des gens qui sont là par ruse et que c'est très grave ce qu'ils ont fait. S'il manquait une seule personne, Dieu ne serait pas là. Atem nitzavim hayom, kulechem, lifnei Hachem lokechem. C'est là que Hachem est présent parce que vous êtes Kulechem, parce que vous êtes tous ensemble. Ça, c'est comme ça que c'est expliqué dans l'écoute de Torah. Au basé, Yuvan, Mahamar, Botenu, Zichonam, Livracha. Avec ça, on va comprendre, ça fait réfléchir tout ça. Au basé, Yuvan, Mahamar, Botenu, Zichonam, Livracha. Avec ça, on va comprendre ce que les Chachamim ont dit. Dans la Gemara Yoma, Kichurban, Baïtcheni, que la destruction du deuxième Beit HaMikdash. Unfilat Israël, Begalout, et le fait qu'Israël est en Galout jusqu'aujourd'hui. Veistalkut Ashrina, et le fait que la Shrina est partie en Galout. Veiridatal et Dom Prinat Galout, le fait que la Shrina est malade, que la Shrina va en Galout. Tout ça c'est à cause de quoi ? Akol, Aya, Beavon, Sinat, Rinam, ou Firud, Levavod, Ramanan. Tout ça est à cause de Sinat, de la haine gratuite, et du fait que les cœurs sont séparés, et qu'on n'a pas conscience qu'en vérité, on est tous complémentaires. Rahamanan l'Islam, que Dieu nous en préserve. Maintenant on comprend pourquoi. On comprend pourquoi c'est très important. Parce que qu'un membre spécifique ait un problème à une blessure, c'est une chose. Mais quand un membre décide de ne pas communiquer avec l'autre membre, imaginez que les veines de la main, elles vont dire, tu sais quoi, on est accroché avec le bras, on parle pas avec le bras. Allez, on parle pas, on se dispute. Ils ont le droit, c'est leur droit. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que elles qui vont souffrir. C'est la circulation du corps entier qui va souffrir.
Quand tu dis haine gratuite, c'est-à-dire elle est forcément d'un juif vis-à-vis d'un autre, elle, quoi qu'il arrive, elle sera gratuite.
Alors, pourquoi on appelle ça de la haine gratuite?
Parce qu'elle est gratuite forcément.
Non, non. Ça veut dire que des fois, d'accord.
C'est une haine qui peut être justifiée.
Alors, des fois, c'est quelqu'un qui t'a fait une crasse. Excusez-moi du terme, d'accord ? Tu fais une crasse, donc là, c'est une haine qui est interdite, voilà. Mais qui n'est pas gratuite. C'est suite à quelque chose. C'est interdit aussi, mais c'est suite à quelque chose. Mais c'est expliqué, c'est le rabbi précédent, il explique comme ça. Il dit que dans la majorité des cas, quand on a une haine contre quelqu'un, une autre personne qui est chômeur, une autre personne qui est peut-être une chita différente que nous, on ne sait même pas pourquoi on a cette haine. Et qu'en vérité, les raisons de la haine vont venir après. C'est-à-dire que quand quelque part tu vas justifier pourquoi tu dis ce que tu dis, alors tu vas trouver un truc et le cerveau est assez intelligent pour se trouver toujours une raison. Tu trouveras toujours quelque chose. D'accord ? C'est quand on a quelqu'un, pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as accroché ? Il sait même plus pourquoi il a accroché. Mais il faut bien qu'il trouve quelque chose. Il va dire oui, parce que t'as fait ça. Oui, d'accord, bon. Mais c'est pas pour ça que t'es. En vérité, il sait au fond de lui, c'est pas pour ça qu'il a accroché. Ça s'appelle la haine gratuite. D'accord ? Et qui n'est pas concerné par ça ? On est tous concernés par ça parce que sinon ma chère serait déjà là. Chacun à son niveau. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Il dit que, c'est quoi la sinatrinam ? Sinatrinam, c'est quand un membre, il décide, je communique plus avec l'autre. Donc, si un membre ne communique plus avec l'autre, qu'est-ce qui se passe ? La circulation du sang est coupée.
En plus, c'est pas ça, c'est que c'est répétitif après.
Exactement. C'est-à-dire, si un membre décide, je vais me blesser intérieurement, c'est une chose. Lui, il va être malade, on va appeler un docteur, il va soigner. Mais quand un membre décide de couper la communication avec un autre membre, c'est le corps entier qui va souffrir. Et on ne peut rien faire tant que ces deux membres n'ont pas repris la communication. Tant qu'il n'y a pas de liaison entre ces deux membres. Ben c'est la même chose. Il n'y a pas de raccourci pour Sinatrinam. Il n'y a pas de Ségoula, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de Tzadi qui pourra nous le faire. Personne ne pourra le faire à notre place. Tu peux amener le meilleur docteur du monde. Tant qu'on n'a pas refait la jonction entre les deux membres, tant qu'on n'a pas réparé la veine, ça ne marchera pas. Tu peux amener le meilleur docteur au monde, il faut d'abord réparer ça.
Comment tu fais la jonction ?
D'accord ? Ben, la jonction, c'est un travail de chacun. De Hardout. Tant que ça ne sera pas fait, ma chère ne peut pas venir. Tu peux amener le plus grand ma chère. Dans chaque génération, il y a ma chère qui est là, qui nous attend. Je peux faire les plus grandes mitzvotes que tu veux. Tant qu'il n'y a pas la jonction entre les éléments de Ham Israël, ma chère ne peut pas venir. Puisque le sang ne circule pas.
Oui, mais entre deux individus, ça va. Mais entre 600 000 ou ce que tu vas amener, ça paraît. C'est jamais au même moment, mais entre.
On explique en Chassidut, on dit que la manière de réparer le monde, c'est d'abord de se réparer. C'est-à-dire, comment tu répares le monde ? C'est d'abord, je vois, moi, quels sont les conflits que j'ai dans ma vie, et comment, moi, je peux les régler.
Si j'en trouve pas.
D'accord ? On en trouvera toujours. C'est sûr qu'il y a des conflits.
Justement, non.
Seulement, attention, je suis pas en train de dire ici... Je veux qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Je suis pas en train de dire ici qu'on doit être d'accord avec tout le monde. Et de ne pas avoir de personnalité. C'est faux, c'est pas ça l'approche de la Torah. Il suffit d'ouvrir une page de Gemara pour le voir. Sans marloquette, tu peux avoir 10 avis sur un truc. C'est un problème, ça. Mais par contre, on doit avoir conscience qu'on est complémentaires les uns avec les autres. Et si on l'a pas, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que Beth Amidash est détruit. C'est la seule raison. C'est Sinatrinam, parce que quand c'est Sinatrinam... Voilà, avec ça, on comprend parfaitement. Pourquoi la Sinatrinam, c'est une condition sine... Pourquoi la Sinatrinam, c'est une condition sine qua non ? Pourquoi on doit enlever ça pour ramener le Beth Amidash ? Parce que si t'as un membre qui est blessé localement, tu peux... D'abord, des fois, c'est pas vital. Et tu peux amener un docteur, il va le réparer. Mais quand c'est pas un membre qui est blessé, quand chaque membre en soi est parfait, mais que les membres ne communiquent pas entre eux, même si chaque membre en soi est parfait, s'il n'y a pas de communication entre les membres, le corps s'effondre. Ça ne tiendra pas. Velachen, c'est pour ça, Nikret, Cholé al Derech Machal. Voilà pourquoi la Shrina est appelée malade. On dit que la Shrina est malade aujourd'hui. On en comprend pourquoi. Comme un malade, c'est-à-dire que la circulation du sang ne va pas bien. Ça ne circule pas assez. Voilà pourquoi on insiste beaucoup aujourd'hui sur Ahavat Israël, sur le Lashon Hara, d'accord ? Alors, les maîtres de la Chassidoute insistaient plus sur Ahavat Israël. Les maîtres du Moussar, eux, insistaient plus sur ne pas dire de la Shonara. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plutôt du côté positif, et il y en a qui sont plutôt du côté négatif. Mais on va vers la même piste. Le but est le même. Le but est de renouer les liens. D'accord ? Le but est que jamais on doit arriver à une situation de dire j'ai la haine d'un autre, je supporte pas l'autre et j'aurais préféré qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas. De pouvoir dire je m'entends pas avec lui, ça va prendre du temps, j'arrive pas à discuter, j'arrive pas à communiquer, c'est une chose. Mais le fait de ne pas supporter quelqu'un d'autre au point de dire j'aurais préféré qu'il soit pas là et qu'on peut pas communiquer, on n'est pas complémentaires les uns les autres, tout ça, c'est une être une âme. Quand il y a ça, il n'y a pas de communication, c'est l'âme Israël antique qui souffre. Umash omrim somer noflim virofir cholim la chaîne rabim emkola evarim. Avec ça, il te dit, vous savez, dans la Amida, qu'est-ce qu'on dit? On dit somer noflim virofir cholim. On dit qu'Akadosh Baruch Hu guérit les malades. C'est qui les malades? D'accord? C'est qui les malades? C'est une vérité. Tu sais de quoi on parle quand on parle des malades? Quand on parle des malades, on parle de chaque personne du Ham Israël. Chaque membre du Ham Israël, chaque Neshama du Ham Israël est un membre de ce corps qui est malade. Et c'est pour ça que nous, on demande à Kadosh Baruch Hu, en vérité, dans cette bracha, somer, tamflim, refer, cholim, on parle pas seulement de la refoua physique. Il y a une bracha pour ça. D'accord? Regardez. La bracha, somer, tamflim, refer, cholim, juste après, de quoi on parle? Somer, tamflim, refer, cholim. Donc on parle de la refoua. Mihamocha balgon, melech, memit, mechaye, matmea, chishua, venemana, talachay. Je me dis, baruch atah, mechaye, hametim. Résurrection des morts. Moi, je vous pose la question. Quel rapport entre la résurrection des morts et la guérison des malades? C'est la même bracha. D'accord? En plus, il y a une autre bracha après pour la guérison des malades. Refaenu, Hachem, Vénérafé.
Parce que celui qui n'étudie pas, il est considéré comme mort.
D'accord. Mais ma question, c'est quel rapport? Pourquoi dans la deuxième bracha? La bracha qui est faite dans tous les cas. Ça veut dire qui est faite le Chol, le Shabbat, Yom Kippour, Neila, toujours. Il y a toujours cette fameuse bracha dans laquelle on demande Rofé Cholim, Mechaya Metim. On dit qu'Akadosh Baruch Hu guérit les malades, et après on dit qu'Akadosh Baruch Hu il fera revivre les morts. Mais quel rapport entre les deux? Bon, Zakat, c'est très simple. Et tu dis, toi, quand tu vois guérir les malades, tu crois qu'on parle des malades physiques? On parle aussi des malades physiques. Non. On parle principalement du vrai malade. C'est qui le vrai malade? C'est la Shrina. La Shrina, elle attend une chose pour amener la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'elle attend? De se rétablir, que le corps arrête d'être malade. Comment le corps va arrêter d'être malade? C'est quand on va communiquer les uns avec les autres. Donc en vérité, dans cette parole, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, refais cholim, Akadosh Baruch Hu, guéris notre corps, donne-nous une bracha pour qu'on arrive à communiquer les uns avec les autres. Une fois qu'on va réussir à communiquer les uns avec les autres, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, mechayavatim, résurrection des morts. Voilà pourquoi aussi la dernière bracha de la Mida, c'est quoi? Sim, shalom, tova ou bracha.
Mais on n'est pas médecin, donc d'accord? Comment tu veux qu'on les guérisse, les
non,
malades?
Non, pas médecin, demande à Dieu de nous aider. Ça, je t'explique ici. Tu dis que le membre en soi, il peut être en très bonne santé.
Il n'est pas connecté.
Mais il n'est pas connecté. Donc c'est urgent de réparer cette veine. Le membre en soi, peut-être qu'il est très bien, il est parfait, il marche, il fonctionne. Mais s'il n'est pas connecté, c'est le corps entier qui est malade. Voilà pourquoi aussi la dernière bracha de la Mida, c'est quoi? Sim, shalom, tova ou bracha. Le shalom.
Paix.
D'accord? Avec quoi on finit la Mida? Ose, shalom, imbromav. Où il y a assez shalom, aleinu, valkol, Israël. Celui qui fait la paix dans les cieux, entre qui et qui? Il fait la paix dans les cieux. Entre l'ange Michaël et l'ange Gabriel. L'ange de la bonté, l'ange de la rigueur. Qui sont normalement contradictoires. Un veut le bien, l'autre veut punir. Un veut récompenser, l'autre veut punir. Et Akadosh Baruch Hu fait le shalom. Il arrive à les mettre les deux dans la même armée pour servir le même roi. Alors on dit Ose shalom imbromav, le roi qui fait le shalom dans ses cieux. Ou Yase shalom aleinu, qui nous permettent aussi à nous de faire le shalom entre nous. Valkol amo Israël, veimro. Amen.
Et qui c'est qui est considéré comme.
Vous remarquez que toute la minette tourne autour de ça? Et pas seulement ça. Ça veut dire que c'est pas seulement la Mida, c'est les brachot clés qu'on va faire, même le Shabbat. Vous savez pourquoi le Shabbat on fait pas toutes les brachot centrales? Parce que toutes les brachot dans lesquelles il y a des demandes personnelles, le Shabbat on le fait pas. Parce que le Shabbat, on n'est pas préoccupé par les demandes personnelles. Le Shabbat on pense qu'à Kadosh Baruch Hu. Et bien même le Shabbat, ces demandes on les demande. Pourquoi? Parce que c'est vital, c'est crucial, c'est urgent. Si on répare pas ça, s'il n'y a pas de communication entre le Ham Israël, ma chère peut pas venir. Quand on voit ça, on voit que toutes les brachot clés de la Amida tournent autour du shalom et de la communication entre les différents membres du Ham Israël. D'accord? Donc, on va demander à Kadosh Baruch Hu, dans cette parasha Nitzavim et dans cette veille de Rosh Hashanah, de nous donner la force de Atem Nitzavim Ayom Kulechem, qu'on ait la force de ressentir comment on est complémentaires et comment on a besoin chacun les uns des autres. Et là, automatiquement, comme a dit Baal Shem Tov, on sera Nitzavim, ça veut dire on se tient droit, ça veut dire on est sûr qu'on va gagner le jugement, et on sera Lifne Hashem Elokechem, ça veut dire qu'on va dépasser le nom de Hashem, le nom de Elohim, on ira carrément à la source de Neshamot, Vera Ve'Amenu Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.